nous sommes là pour une réédition qui n'en est pas tout à fait une. Je reviendrai sur cela tout à l'heure. Donc, sur l'estuaire de la Gironde, une histoire au long cours. Anne-Marie Cocula et Eric Audinet, en fait, qui s'étaient déjà retrouvés il y a 27 ans pour un premier ouvrage sur l'estuaire. Ce n'est pas un copier-coller, hein, ce n'est pas du tout le même livre, hein, même si on retrouve les mêmes auteurs. Et sans doute, d'ailleurs, y a-t-il une légitimité à ce qu'il y ait eu ce parcours de 27 ans par rapport à cet estuaire pour le réécrire. Donc là, je ne vais pas m'adresser à l'un des deux co-auteurs, je vais m'adresser à l'éditeur, même si ça l'embarrassait au préalable, parce qu'il me disait « ça me gêne d'être éditeur et auteur ». En fait, ça ne le gêne pas du tout, parce qu'il l'a fait quand même, et c'est une vieille tradition française.
Oui, juste préalablement, je suis un peu touché par la présence de quelques personnes dans cette salle. Donc, je voulais le dire comme ça, je pourrais le dire sans y penser pendant... Il y a presque 30 ans, avec Anne-Marie, mais Anne-Marie, elle est là, bon, ça va, avec deux amis photographes qui sont Jean-Frédéric Hittel, qui n'est pas là, mais Jean-Luc Chapin, qui est là. Donc, merci, Jean-Luc, d'être venu, puisque dans ce premier livre, qui était plus un format, qui était un livre qu'on appelle « beau livre », la part des photographies était plus importante, et c'était plus un album. Une autre personne que je voulais remercier d'être là, deux personnes, qui sont Christian et Carmen Sanchez, parce que qui sont là devant. Christian était, je dis, parce qu'il est maintenant à la retraite, mais pêcheur sur le port de La Marque. Et quand on est arrivé avec Jean-Luc, découvrant un peu ce pays, bordelais, découvrant, et je dis bien découvrant, parce qu'il y a 30 ans, l'estuaire, je pense, ce qui n'est plus du tout le cas, est resté pour les bordelais une sorte de... pas de terra incognita, mais enfin, en tout cas, quelque chose qui était en dehors du vin, de Royan et de quelques autres lieux, ça restait un pays assez inconnu. Voilà, ils sont là ce soir, 30 ans, presque 30 ans après, donc merci d'être venu depuis La Marque. Puis, je ne sais pas, je vois aussi des tas de Marc Martinez qui s'occupe de la grotte de Père Nompère, qui est venu ce soir. Je crois que Alain Cotten, je ne sais pas s'il est là, qui s'occupe du conservatoire de l'estuaire, puis sans doute d'autres. Merci en tout cas d'être là. Alors, juste un mot pour répondre à ta question, c'est que il y a maintenant 2 ans et demi, avec Anne-Marie, on s'est interrogé sur la pertinence de refaire un livre sur l'estuaire. Et on avait deux arguments principaux. Je parle pour vous, Anne-Marie, pardon, mais c'était que sur le plan historique, il y avait quand même toute une série de choses nouvelles qui permettaient d'enrichir, de compléter, de nourrir tout ce qu'on pouvait dire à l'époque sur l'estuaire. Et sur le plan de ma partie, qui était la partie plus contemporaine, c'est vrai qu'en presque 30 ans, ça pourrait être l'objet d'une discussion entre nous, mais je pense qu'on a basculé dans un autre monde à bien des égards. Et je ne citerai qu'un exemple. Il y a 30 ans, je parle sous le contrôle de Christian, il y avait encore entre 250 et 300 familles qui vivaient de la pêche professionnelle sur le complexe, qu'on appelle le complexe estuarien, de tout en haut ou au bout de la descente, jusqu'à Libourne et Bordeaux. Aujourd'hui, sur ce même espace, il en reste un peu plus de 20. Donc, vous voyez, en 30 ans, je pense que ce chiffre est significatif de certaines choses dont on va parler, qui ont évidemment été remplacées par d'autres choses. L'estuaire aujourd'hui est bien autre chose. Je devrais aussi dire que, enfin, ça me gêne de le dire puisqu'il est là pour nous interroger, mais que Éric Desgarret, qui est là, qui travaille au conseil départemental de la Gironde, travaille beaucoup sur ces questions, notamment sur l'île Nouvelle et l'île Bouchot. Donc, c'est un monde en transformation, et ça a été, je crois, la raison pour laquelle on s'est dit on refait entièrement ce livre sous une autre forme. en gardant des éléments du précédent, mais en y intégrant beaucoup de choses. Et en y intégrant aussi quelqu'un d'autre qui est là avec nous, qui est Maite Chu Echeverria, qui est photographe, qui a fait récemment de très belles expositions au FRAC Aquitaine, à la galerie Arrêt sur Image, que certains d'entre vous connaissent sûrement, et à Château Palmer, dans le Médoc. Maite Chu, dont je ne vais pas révéler la vie privée, mais en tout cas, elle a un lien très fort à l'estuaire et aux îles de l'estuaire. Et que ce soit pour ses expositions ou pour ce livre, on regardera les photographies tout à l'heure, je lui avais demandé si elle pouvait nous faire une sorte de parcours de l'estuaire, au fond, de Bordeaux à Cordouan, avec ces étapes que sont les différentes îles, et puis pour une autre raison aussi dont je parlerai tout à l'heure. Voilà ce qui a été un peu à l'origine de ce nouveau projet. Est-ce que je peux dire juste une toute petite chose encore, Eric, avant? Je voudrais... Non, parce que c'est quelque chose qui me perturbe depuis ce matin. En relisant le livre, je voulais me fâcher avec l'éditeur du livre, ce qui est évidemment un peu compliqué puisque j'en suis le responsable. C'est que je me suis rendu compte, pour des raisons que je ne vais pas expliquer là, mais qu'il y a deux, il y a deux grosses coquilles dans le livre. Il est question de l'A320 qui remonte... la grande, c'est évidemment l'A380. Hein, il y a un 2 qui est devenu un 8. Et puis une autre, non mais une faute qui me gêne plus, c'est qu'il est question des piles du pont d'Aquitaine. Voilà, je vous laisse.
Bon, après cet excès d'humilité,
il y a une confusion entre le pont Chaban et un pont suspendu qui, par définition, n'a pas de piles. Mais... Ah oui, là.
Si vous voulez, on va faire un débat sur les ponts, les piles. Bon, donc deux écritures qui se rencontrent. Je ne dirais pas qu'il y a une écriture littéraire qui serait celle d'Éric et une écriture historique qui serait celle d'Anne-Marie, puisque je considère que les deux ont une valeur littéraire. Et d'ailleurs, les premières lignes, alors je me dis, je vais les lire, mais non, je vous laisserai les lire. Mais dès ces premières lignes, Anne-Marie, qui resitue plus largement les deux rives de l'estuaire, écrit un premier paragraphe que je trouve extrêmement littéraire. Et très beau. Je lui disais tout à l'heure, avant que l'on ne s'asseye tous les trois. Et donc, c'est une tradition de l'histoire que l'on retrouve avec elle. C'est une langue très fluide. C'était une pédagogue admirable. Et cette fluidité, on la retrouve dans la langue. Je sais qu'elle déteste qu'on lui fasse des compliments, mais je tenais à le dire. Néanmoins, cet estuaire, il a une histoire, donc par plusieurs petits chapitres, si on peut dire comme ça. Vous recomposez cette histoire d'un point de vue historique et aussi un petit peu géographique, parce que les deux faces sont intimement liées. Voilà. Donc, redites-nous un petit peu cette histoire de l'estuaire très ancienne.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette salle toute fraîche. L'histoire de l'estuaire, elle est de très très longue durée. Il y a ici des spécialistes de la préhistoire que je ne veux pas contrarier, mais en quelque sorte, elle commence dans des temps préhistoriques, alors que l'estuaire n'est pas l'estuaire. Donc c'est compliqué. Et chaque fois, j'y suis déjà allée plusieurs fois, et je salue ici son conservateur, que nous allons en père non père. Moi, j'ai quand même beaucoup, beaucoup à la fois de difficultés à me resituer dans le temps, parce que c'est compliqué quand on vous dit ils s'installent là, les Néandertaliens, vers moins 60 000, ils vont y rester pendant 30 000 ans, bon, jusqu'à moins 30 000, bien, il y aura des sapiens qui viendront, ils l'occuperont peut-être tour à tour, moins 60, moins 30, nous on est à plus de 1000, quelques années. Donc vous voyez, c'est compliqué. Et c'est compliqué aussi pour reconstituer dans les premiers temps et dans le premier chapitre un paysage que les préhistoriens voient se dégager peu à peu, que les géologues connaissent mieux. Mais là, les historiens, ils sont un peu embarrassés. Et c'est en partant de cet embarras que j'ai souhaité en quelque sorte partir sur ce qui me paraît le plus important, la longue durée. Comment on fait dans la longue durée pour saisir les évolutions d'un paysage. Et tout à l'heure, Eric n'en a pas parlé, donc j'en profite pour le dire. Le changement par rapport il y a 27 ans, c'est que nous avons vieilli, certes, mais surtout, il y a une nouvelle Aquitaine qui n'est pas l'ancienne Aquitaine d'il y a 27 ans. Et sur le plan de la géographie, sur le plan de l'économie, sur le plan des paysages, désormais, il me semble, à travers cette étude, à travers ces recherches, que l'estuaire il est englobé dans une zone fluvio-maritime très importante qui pourrait aller, même si elle ne s'entendait pas dans un passé récent, de Bordeaux à La Rochelle ou de La Rochelle à Bordeaux, en prenant appui justement sur l'existence des marais de la basse vallée de la Charente, des marais de la Seude, de l'Aunis, de la Saintonge. En fait, c'est une région qui est fluvio-maritime, c'est-à-dire où les eaux des rivières et les eaux de la mer ou de l'océan finalement s'affrontent et en même temps créent une faune, une flore, un paysage complètement originaux. Voilà ce que je voulais dire en partance, en quelque sorte.
Je rappelle que normalement, l'estuaire, il commence au bec d'Ambès, à la pointe du bec d'Ambès, et il va jusqu'à l'embouchure. Mais enfin, d'autres lui donnent d'autres...
Oui, il commence à l'endroit où les eaux de la Garonne et de la Dordogne, que je persiste à penser pour être une rivière à part entière, se mêlent au bec d'Ambès. Et si vous avez vu, si vous avez eu l'occasion de voir le bec d'Ambès, c'est en fait une très très fine pointe de terre qui elle aussi est chargée d'histoire. Elle a été ensuite chargée d'industrie, de vignes, et donc qui a évolué de façon considérable et qui pose des problèmes de navigation très importants. Donc en fait... Dans l'histoire, pour résumer rapidement, depuis, en fait, même bien avant la conquête romaine, on se trouve devant une zone d'échange, une zone de trafic, une zone de commerce qui n'a fait ensuite que s'amplifier. Qui n'a fait ensuite que s'amplifier avec des échanges auxquels on ne pense plus désormais, mais qui, à l'époque, de l'époque romaine, on va dire, pour faire court, jusqu'au XVIIIe siècle, repose sur quelques denrées essentielles pour la subsistance des populations et aussi pour le commerce et pour Bordeaux. Ces denrées, il y a d'abord le vin des descentes fluviales, ce vin, finalement, qui n'est pas semblable au vin d'aujourd'hui, mais qui est déjà très vendu depuis Bordeaux, depuis Libourne, depuis La Rochelle, dont je parlais tout à l'heure, même si La Rochelle n'est pas sur l'estuaire. Et l'autre denrée capitale dans l'histoire de l'estuaire et des régions riveraines, c'est le sel. De nos jours, plus personne ne pense finalement à l'importance de cette denrée d'échange. Or, elle a été capitale et à partir de ce moment-là, finalement, ces deux denrées montantes, descendantes vont créer un flux commercial incessant depuis au moins l'époque romaine, sans doute avant, puisque désormais, grâce aux découvertes récentes de l'archéologie, on sait que bien avant César, les Gaulois commerçaient avec les Italiens.
Mais même si c'est une terre d'échange, puisque c'est une rivière, on va l'appeler la rivière en y mettant les guillemets que vous mettez d'ailleurs dans l'ouvrage, c'est aussi une terre d'invasion. C'est-à-dire qu'il s'est aussi construit par rapport, si je puis m'exprimer ainsi, construit de manière réelle. Hein, je pense notamment à Fort Pâté, au Verrouvement. Mais on sait que les Vikings y sont passés, les Arabes y sont passés. Donc on voit que c'est aussi et une terre d'ouverture et une terre d'invasion, et une terre qui s'ouvre et une terre qui se protège et qui protège.
Oui, c'est ça, mais il faut faire très attention parce que là, il y a un déséquilibre très important entre les deux rives. Bordeaux étant le point, si j'ose dire, central, même si c'est à 76 km finalement de Cordouan, la ville cible des invasions, quelles qu'elles soient, elles viennent pas très souvent quand même de l'Atlantique. La plupart des invasions sont des invasions terrestres. Hein. Mais à la guerre que les Normands qui s'aventurent, les autres arrivent du côté de l'Est. Alors, terre d'invasion, certes, mais en même temps, terre inhospitalière, côté rive gauche, les estuariens ou les habitants de la rive gauche, qui ne communiquent pratiquement jamais avec ceux de la rive droite, étant entendu, tenant compte de la largeur, ils sont protégés par les marais. Ils sont protégés par cette zone basse, par les alluvions, par les marées. Et en même temps, quand on lit finalement Ozone et les lettres à Théon, on s'aperçoit que c'est quasiment ce Médoc-là, c'est le Médoc des sables, le Médoc des alluvions, le Médoc des marécages. Et à partir de ce moment-là, côte inhospitalière où les envahisseurs ne passent pas Il passe pas par là. Ce qui est le plus important, c'est la rive droite. Alors là, la rive droite, c'est tout à fait autre chose. Elle est à la fois hospitalière aux gens qui montent et qui descendent. On va les appeler des bateliers ou des mariniers. Et elle est convoitée. Et les Normands, quand ils s'installent et sur la Charente et dans, sur la rive droite de l'estuaire. Mais les invasions normandes, c'est 50 ans dans la longue durée. Alors non pas que je sois pro-normande, mais c'est finalement assez peu de choses. Ce dont vous parlez, l'aspect défensif dont vous parlez, c'est tout le squelette un peu de cet ouvrage. C'est le moment où la monarchie française, au fur et à mesure des conquêtes de la monarchie française, va s'intéresser à la voie commerciale majeure, à la rivière de Bordeaux, et va pouvoir en quelque sorte la protéger de ceux qui peuvent être les envahisseurs. Et à partir du XVIe siècle, depuis les Espagnols du XVIe siècle jusqu'aux Allemands du XXe siècle, bien évidemment, l'estuaire devient une voie d'invasion. Et à cet égard, l'œuvre de Vauban est une œuvre défensive. Mais c'est une œuvre qui ne servira pas à grand-chose. Voilà. Mais c'est une belle œuvre. Donc, c'est ça qui est important à noter. Et en même temps, et moi je le dis sans arrêt lorsque je parle de l'histoire de Bordeaux, il faut se dire que tout cela sert aussi à surveiller Bordeaux. Bordeaux n'est pas la ville royale qu'on vous présente d'ordinaire, c'est pas la ville monarchique que l'on vous décrit, c'est une ville rebelle. C'est-à-dire que c'est une ville qui est sous surveillance monarchique et dont les transformations architecturales ne déplaisent aux Bordelais. Ils n'ont pas du tout envie de cette ouverture de leur belle, d'une belle façade sur les quais imposée par les intendants. Ils ne veulent pas trop de la stature royale qu'on leur impose aussi, parce qu'ils savent, comme on l'a dit, que les risques viennent de la rivière et que les invasions, elles viennent à l'époque moderne où les marines se sont développées, où les Espagnols, les Anglais sont plus dangereux par rapport aux forces qu'ils représentent, eh bien, ils veulent être protégés par des fortifications et par des remparts. Donc voilà. Et à cet égard, tout le monde le sait ici, la défense de Vauban à Blaye et au château Trompette à Bordeaux, c'est de se dire que, en même temps que l'on surveille l'estuaire, on surveille la ville.
Et tout au long des pages que vous consacrez à l'histoire, en fait, c'est aussi l'histoire de France hein, qui s'imprime sur l'estuaire de manière très évidente par rapport au parcours que vous proposez, avec ses légendes, celle de Roland, hein, parce que je doute fort quand même qu'il s'était... Mais au-delà, on voit bien, je parlais d'invasion anglaise, mais enfin, l'invasion anglaise a été très douce au Bordelais, et même elle a été...
Ce n'est pas une invasion.
Du tout, oui.
C'était une occupation.
Ouais, une occupation bien acceptée.
Ils avaient toute raison d'accepter les Anglais et d'aimer les Anglais, puisqu'en fait, ils leur assuraient un trafic régulier des vins Claret. Donc, finalement... Et puis, il faut absolument abandonner l'idée d'un nationalisme cocorico du 19e siècle, qui n'avait pas du tout ce sentiment de la patrie ou de la nation. Et c'est eux, de toute façon, 1452, qui ont rappelé les Anglais parce qu'ils ne supportaient pas la domination des Français et qu'ils ne supportaient pas de voir construire dans la ville le château Trompette et le fort du Hâ, qui étaient deux forteresses royales avec des garnisons royales. Donc, en fait, ce qui est très important, c'est que cette rivière de Bordeaux, c'est ainsi qu'on l'appelle, devient, j'allais presque dire, une zone de chasse gardée pour la monarchie, qui a là un atout majeur, Bordeaux, la ville de Bordeaux, et les trafics commerciaux dont on a parlé. Un peu plus tard, viendront les trafics avec les Antilles. Un peu plus tard, viendront les trafics coloniaux du 19e siècle. Donc, c'est cet atout-là qui est formidable.
Pardon, sauf qu'on remarque aussi, ça, c'est un point important, on le voit bien là, quand on regarde, peut-être on dira un mot tout à l'heure de cette magnifique carte qui est probablement une des plus belles cartes de démarrer qui vient de la Bibliothèque nationale et qui est une carte absolument magnifique, probablement la plus belle sur l'estuaire. Et qui a une particularité, c'est que elle couvre la totalité et qu'elle est remplie d'un certain nombre de cartouches qui, déjà à l'époque, on est fin 18e, montrent déjà toute une série de richesses de cet estuaire, que ce soit des richesses architecturales ou des richesses naturelles. Mais ce qu'on voit aussi par rapport à ce que disait Anne-Marie, c'est qu'au fond, on pourrait dire qu'il y a il y a deux estuaires. Un estuaire qui irait de Bordeaux, en gros, au Vérou, qui impliquerait la plupart des îles, à l'exception de Patiras, qui est plus en aval, et que c'est la partie, au fond, en amont du Vérou, qui était véritablement protégée et qui permettait de surveiller Bordeaux, la partie en aval étant plus une partie, au fond, où toutes sortes de bateaux de toute nationalité venaient pour piller, pour arrêter le commerce. Donc il y a une sorte de double... On peut parler d'un envers et d'un endroit de l'estuaire.
Alors, il faut expliquer peut-être ce qu'on appelle le verrou par rapport au public de la salle. Alors, le verrou, c'est pas une clé, c'est le système Vauban qui consiste finalement, à partir du château initial des Rudelles à Blaye, à construire la forteresse énorme que vous connaissez, très très imposante, et à construire de l'autre côté de la rivière Fort-Médoc, que vous avez sûrement visité et qui contient une magnifique porte Louis XIV avec le soleil monarchique, et au cœur, au centre de la rivière Fort-Pâté, dont le poids fait qu'il s'enfonce un peu plus. Donc en fait, ce verrou-là, c'est un verrou défensif qui effectivement veut barrer le chemin de l'estuaire, simplement, et protéger Bordeaux. Mais en même temps, ce verrou, au moment où il est achevé d'être construit, c'est-à-dire finalement au début du 18e ou à la fin du 17e, au début du 18e, il est plus opérant. Il est plus opérant parce que Fort-Pâté s'est enfoncé, parce que Fort-Médoc est pratiquement inhabitable avec finalement la malaria qui y est de façon constante. C'est là qu'on enverra les curés réfractaires, c'est là qu'on mettra les prisonniers anglais, etc. C'est un mouroir, Fort-Médoc. Hein. Et finalement, il n'y a jamais eu de guerre navale, la preuve que les bateaux ne pouvaient pas franchir le verrou. Et les Anglais ont tout de suite compris. Ce n'était pas la peine d'aller jusque-là. Il suffisait de rester autour de Cordouan, d'armer des bateaux en course, d'avoir des corsaires. Et les corsaires de Cordouan, surtout anglais, ils étaient très efficaces pour arrêter à la descente et à la remontée les bateaux. Donc, en fait, ce verrou défensif n'a pas vraiment joué à plein. Il a été conservé, c'est magnifique, et restauré de façon architecturale. Mais comme beaucoup d'ouvrages d'art de Vauban, qui a largement raconté ses voyages, ses constructions, ses problèmes, sa stratégie dans ses oisivetés, ça n'a pas été forcément important. Hein. Mais après, en aval, eh bien, c'est la région presque de tous les risques de navigation. Vous savez que pour la remontée des bateaux, il faudra des pilotes à partir du XVIe siècle. Et saluons ici l'entreprise des pilotes de Gironde. Hein. Et puis, c'est aussi la transformation des paysages. On n'en revient pas de voir bouger ces paysages. Montaigne, qui a un frère qui est plus en amont, se félicite parce qu'il ne s'entend pas bien avec lui de voir ses domaines se transformer en sablières. Et n'oubliez pas aussi l'histoire de Notre-Dame de Soulac. Hein. Pensez que là, on a véritablement des paysages fluctuants, mouvants, et qu'il est compliqué en quelque sorte de s'y approprier. Alors quand on regarde les cartes, toutes les cartes, et notamment celle de Desmarais, sont des cartes commandées par la monarchie. En fait, ce ne sont pas les cartes d'état-major, mais ce sont des cartes qui rendent visible, et c'est très important, et celle-ci, elle est magnifique, elle est traitée dans toute sa longueur, qui rendent visible d'abord l'état de la rivière, sa largeur, les courants, et qui rendent aussi très visibles les zones de marécage et les zones, au contraire, de rochers qui serviront de refuge dans les moments difficiles de l'histoire de France. Donc la monarchie, par là, elle a un regard sur très précis. Et je crois qu'on insiste dans l'ouvrage, c'est important, rien n'a été plus exploité, travaillé, protégé que cet estuaire dont on vante qu'il est naturel. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu la main des hommes rive droite et rive gauche, je ne sais pas du tout ce qu'il en resterait.
Comme toujours. Toujours par rapport à l'histoire, au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'estuaire... il y a l'histoire du Massillac, tout le monde connaît.
Bien sûr.
Ce que l'on sait moins, c'est qu'Albert Cohen s'embarque à Bordeaux et qu'il va rejoindre l'Angleterre. Et il y a un très beau texte qu'il a écrit, qui a été édité, hélas, par les Belles Lettres, où les deux premières pages sont sur la nostalgie qu'il éprouve au moment de quitter ce pays aimé, celui de Montaigne, de Proust, etc. Il y a Pablo Neruda qui, à Trompe-l'Eau, je crois, embarque avec des réfugiés chiliens, là c'était une autre un petit peu avant, pour partir aussi. Il y a ces très belles traces d'histoire. Il y a, d'un point de vue littéraire, on a parlé de Roland, même si Roland, c'est...
Roland Ablaye.
Ça arrive après, sauf que c'est quand même un petit peu le début de la poésie française. Il y a Geoffrey Rudel. On le sait moins, mais le père de Saint-Simon et lui-même furent gouverneurs.
Ah ben, ils furent gouverneurs et le père de Saint-Simon, un très bon exploitant des marais. De l'assèchement des marais, très très bon au niveau de Saint-Cyr, très au fait de la gestion des marais. Un fils, pas beaucoup.
Il y est passé, je crois.
Il préférait
deux fois,
les marais de Versailles, lui.
Oui, ou les marigots.
les marigots de Versailles. Mais pas du tout, il faisait des mauvaises affaires et le père en faisait de bonnes, comme le maréchal de Matignon un peu avant. On n'imagine pas. Finalement, le rapport, le bénéfice de l'exploitation des marais, de l'assèchement de certains, de l'irrigation d'autres, et du bénéfice qu'on en tirait, on n'imagine pas le travail des hommes qui sont là, en quelque sorte, journaliers pour cet entretien. On n'imagine pas les risques des populations en hiver. On vient d'avoir des inondations assez récentes pour vous le rappeler. On a des curés du Blayais et du Bourget qui empruntent les canaux. Et on en a un qui a une rame en forme de perche pour franchir finalement les fossés. Donc en fait, c'est quand même un pays à la fois dangereux et on n'imagine pas non plus... Je l'ai dit, les profits et le fait que Henri IV, quand il devient roi, qu'il connaît fort bien cette région parce qu'il est passé un peu partout, c'est qu'il doit faire appel aux Hollandais, aux ingénieurs flamands, c'est-à-dire pour lui Hollandais, pour pouvoir en quelque sorte non seulement assécher, irriguer, assainir, mais pour servir véritablement d'homme de l'art dans cette région.
On n'ira jamais assez l'apport des Flamands, ne serait-ce qu'à la viticulture. oui, bon, donc littéralement, il y a aussi la duchesse de Berry, indirectement, on ne peut pas ne pas penser à Chateaubriand. Il y a Marguerite Duras, alors c'est plutôt côté cinéma qui vient tourner Moderato Cantabile. On voit, nous, un écrivain qu'on connaissait bien, qui écrit très jolies pages, Michel Chailloux, avec ce très beau titre qui va si bien à l'estuaire, qui est Le sentiment géographique, ce qui me permet une transition avec Eric, tout trouvé. Je te remercie. Et par rapport au texte que tu proposes, où c'est un texte de parti pris, je pense que c'est un texte qui est intimement dicté par le sentiment géographique, et c'est ça qui est bien dans cette coexistence avec le texte d'Agmarie, qui est historique, mais aussi littéraire, je tiens vraiment à le redire. Voilà, alors explique-nous un petit peu ce nouveau parcours sur l'histoire.
Je crois que par rapport à ce que Anne-Marie vient d'expliquer, c'est qu'on est en face dans l'estuaire d'un monde absolument mouvant et que c'est quelque chose d'ailleurs qu'on voit bien quand on regarde un peu l'histoire de la cartographie de l'estuaire, à quel point cet estuaire est en perpétuel mouvement parce que le système des marées, le système des alluvions fait que d'une année à l'autre, d'une dizaine d'années à l'autre, d'un siècle à l'autre, mais là on l'a vu récemment même de quelques années à d'autres, on a des transformations d'importance qui se constituent à la fois sur l'estuaire et sur les rives. Et c'est vrai que le projet initial du livre, enfin de toute la partie, on va dire, la partie traversée de l'estuaire, puisque c'était un petit peu ça qu'on voulait, c'était à la fois avoir un texte en vertical, qui était le texte d'Anne-Marie, et un texte horizontal, qui était ce parcours qui, de Bordeaux, nous faisait aller jusqu'à Cordouan, n'a cessé de nous mettre... on y a travaillé il y a donc 30 ans pendant plusieurs mois, et quand on a refait le livre de manière plus ponctuelle, mais en revenant souvent sur des endroits qui en 30 ans avaient complètement changé. Et puis il y a eu une expérience une expérience qui est un peu personnelle que je raconte et parce qu'elle met aussi en cause et elle implique aussi d'autres personnes. Il se trouve que je cherchais pour essayer de traduire retraduire 30 ans après cette découverte très très étonnante que nous avons eue avec Jean-Luc Chapin en bateau en arrivant après le bec d'Ambès. Quand on voit cette espèce de comme un poudroiement d'îles qui sont ces fameuses îles, ce qu'on appelle la Grande Île, qui n'est pas encore réunie, qui était la réunion de l'île Cazaux, l'île Verte et l'île du Nord. Quand on voit qu'on aperçoit Fort Pâté au loin, Bouchot et l'île Nouvelle, et encore plus loin Pâtiras, c'est un sentiment très étonnant parce que de se sentir comme ça à quelques dizaines de kilomètres de Bordeaux, d'arriver dans quelque chose qui... Quand on recense effectivement toute la littérature qu'il y a eu sur l'estuaire, tu en citais plusieurs, on peut citer des auteurs plus récents, évidemment, le bâtonnier Ciré avec ce livre magnifique qui est le Fleuve impassible qui a été réédité plusieurs fois, mais aussi ce roman absolument dantesque, tragico-dantesque qui est le roman de Pierre Benoît que certains ont sûrement lu, l'île verte, qui transforme l'île verte en un lieu absolument apocalyptique où un amateur d'oiseaux finit par se perdre. Mais je pense au dernier livre de Françoise Detchery, là, sur le sentiment de l'estuaire. Je pense à ce qu'ont fait Christophe Dabitch et Christophe Goussard. Enfin, il y a eu plusieurs approches littéraires récemment. Je pense qu'il y a un lien étroit entre la littérature et le mouvement et la transformation. Et c'est vrai que l'estuaire, de ce point de vue-là, qui est un lieu, faut-il le rappeler, un lieu à la fois puissant, incommensurablement puissant et en même temps d'une extraordinaire fragilité, ceux qui y vivent dessus. Je pense aux pêcheurs, je pense aux chasseurs, je pense aux gens qui y travaillent, voient bien à quel point est-ce que ce lieu est d'une fragilité absolue et d'autant plus fragile qu'il n'en donne pas le sentiment quand on le découvre de l'extérieur. Et puis, donc je reviens à cette idée qui était de chercher une sorte de ligne. Et puis, j'ai fait la connaissance, il y a quelques années, je les avais déjà rencontrés il y a 30 ans, j'avais rencontré les parents de Guillaume de Mecknem, ses parents qui ne sont malheureusement pas là ce soir, mais qui étaient régisseurs de l'île Margot, la plus petite des îles qui est entre l'île, la grande île et le continent. Et il se trouve que leur fils, Guillaume, avec au moins de manière importante une autre personne, qui est, je crois, avec nous, Philippe Lacour, ont créé, il y a maintenant quelques années, à peu près au moment où Bordeaux, où le maire de Bordeaux ouvrait, au fond, la ville sur sa rivière, en refaisant notamment les quais. On pourrait dire comme ça, on pourrait retrouver certaines étapes. Je pense aux quais, je pense évidemment à la cité du vin, je pense au pont Chaban-Delmas, enfin qui d'un seul coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, d'une certaine manière, cette ville s'est tout à coup tournée vers sa rivière. Et non seulement vers sa rivière qu'elle avait devant elle, mais aussi vers cet estuaire qui descendait vers la mer. Et elle ne s'y est pas retournée simplement à cause du vignoble, mais elle s'y est retournée probablement aussi parce qu'elle y a découvert un monde absolument étranger qui était là à quelques dizaines de kilomètres. Et donc, Philippe Lacour, qui a créé, certains le connaissent sans doute, sur la plus lointaine des îles qui est l'île Pâtiras, un endroit, alors je ne fais pas de la pub parce que je trouve qu'il y a eu là une telle compréhension. Ces gens-là qui ont fait ça viennent de l'estuaire, ils y ont vécu, ils savent ce que c'est et ce qu'ils ont créé sur l'estuaire, que ce soit dans le parcours des bateaux qui y amènent ou que ce soit avec ce refuge de l'île de Pâtiras, quelque chose qui est profondément, je crois, profondément en adéquation avec cette rivière et avec ce changement perpétuel dont je vous parlais. Si un jour vous avez la chance d'aller au refuge de Patiras, vous y verrez que la manière dont on prend ses repas à Patiras a un rapport avec cet infini mouvement de la rivière. Et donc, allant là-bas, un jour, dans ce refuge, ce restaurant qui est avec une immense verrière qui donne sur la partie au-delà, donc au-delà des îles, cette chose immense qui fait quasiment 13 km de large au niveau de Talmont, je voyais, il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, le phare, qui est le dernier phare avant Cordouan, qui est le phare de Trompe-Loup. Ce phare de Trompe-Loup qui se trouve peut-être qu'on peut le montrer. Pardon, je vous fais une petite... là, ce sont les images de Maite Chou et Echeverria. Alors, je voulais vous montrer, justement, ça, c'est Cordouan.
Cordouan, ça.
Formédoc, l'île Margot, Matata, on en parlera après. L'île Nouvelle, Pathé, on va y arriver, Port-Maubert... Voilà. Ce phare de Trompe-Loup, il y a maintenant presque 30 ans, était une île. C'était l'îlot de Trompe-Loup, donc qui se trouve, je parle sous le contrôle de Christian, qui se trouve après Patiras. Et on y est allé plusieurs fois. Et donc, il y a 2-3 ans, me retrouvant là, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui manque dans le paysage. Et effectivement, ce qui manque, c'est que l'îlot a quasiment disparu et il reste maintenant, même à marée basse, il reste uniquement ce phare sur lequel, c'est une image de Maite Chou, vous voyez une jeune fille qui est la gardienne, Sarah Pauline, qui est la gardienne de l'île de Patiras. Je ne sais pas comment vous avez fait pour vous débrouiller pour aller là-bas, ça a été un peu risqué, mais bon. Et là... Vous voyez, on parlait du temps long, et ce livre, c'est un livre qui travaille à la fois sur cette idée du temps long et du temps court, et que l'estuaire est un paysage et un monde qui fonctionne aussi sur le temps court, et que dans le temps court, il est complètement traversé par ces mouvements de toute nature, qui sont des mouvements naturels, les vents, les marées, les alluvions, la météo, les tempêtes, etc., mais aussi traversé par des changements majeurs dans la vie et dans le comportement des hommes qui y vivent, dont on pourra peut-être parler aussi.
Anne-Marie voulait réagir à une photo, oui.
Oui, je voulais réagir à une photo. On revient là peut-être aux habitats troglodytes, aux falaises. Aux falaises de la...
Ah oui, de Matata.
Voilà, Matata.
Les grottes de Matata.
Les grottes de Matata, voilà. Alors, en effet, on a parlé des marées, on a parlé des terres basses, mais il faut aussi parler sur la rive droite de ce magnifique itinéraire qui longe l'estuaire. On voyait l'autre jour depuis Roquedetot arriver les voiliers qui étaient plus beaux en arrivant qu'à Bordeaux parce qu'ils voguaient. Et donc là, ce qu'il faut dire, c'est que toute cette partie où la falaise calcaire alterne avec les terres basses est une partie qui a été habitée, qui est un habitat troglodyte qui depuis a été un peu modernisé, etc., mais qui a servi pendant très longtemps de carrière d'exploitation avec celle de la Charente à la construction de Bordeaux. La ville s'est bâtie avec les pierres des carrières de Saint-Émilion, du Saint-Émilionnais, de Roquedetot, donc la rive droite de la rive calcaire. Et ça vous explique d'ailleurs parfois les effondrements, les éboulements, tout ce qui peut être provoqué justement par des soutènements insuffisants. Et ce que je voudrais dire, c'est que ces lieux, à l'heure actuelle, souvent, très souvent touristiques, fréquentés, mais avec aussi un habitat permanent qui tient à son bien-être et qui tient finalement à préserver ces décors formidables, a été un lieu de refuge parce que dans ces grottes-là, dans ces labyrinthes finalement de pierres et de carrières, se sont réfugiés les protestants après la révocation de l'édit de Nantes. C'était là que venaient les chercher les navires, et notamment les navires hollandais. Se sont réfugiés aussi ceux qui désertaient, les marins qui désertaient, parce que, on ne l'a pas dit, mais c'est important, les gens de l'estuaire sont classés dans la marine royale. Ils appartiennent à la marine du roi, puis après à la marine républicaine. Certains préfèrent déserter que servir. Donc là encore, on a tout un tas de carrières et de lieux qui ont servi à cela. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, on en a parlé tout à l'heure, on l'a évoqué, l'estuaire fut un haut lieu de résistance, très surveillé en raison de la présence de la base sous-marine, mais en même temps un lieu où les pilotes de l'estuaire, notamment le réseau Fleuret, a travaillé largement à partir de ces zones de refuge. Donc des paysages contrastés, de très beaux paysages, et rien n'est plus beau justement que cet itinéraire qui permet d'être à la fois sur la rive droite et d'apercevoir, mais de très loin, la rive gauche. Alors ça veut dire ceci, que les hommes d'une rive à l'autre n'ont pas communiqué, pratiquement pas communiqué. On la traverse très difficilement. Le trajet le plus fréquent, c'est le trajet qui va de Blaye à Bordeaux en diagonale, qui est un trajet presque ordinaire, qui est assez souvent emprunté. Ben, pour le reste, on ne la traverse pas, ce qui fait que quand on étudie les registres paroissiaux et quand on regarde les mariages des gens de la rive droite et de la rive gauche, ils ne se marient pas entre eux, il n'y a pas de relation. On ne se connaît pas. Tout passe par Bordeaux. Finalement, la ville intermédiaire, c'est Bordeaux. Donc, on a vraiment des populations, l'une sur la rive droite, qui se consacre assez trop à la navigation, à la navigation fluviale, navigation maritime, en raison de l'amont et de l'aval dont on parlait tout à l'heure, sur la rive gauche, eh bien, effectivement, une population plus sédentaire, plus attachée à la culture de la vigne, à l'exploitation des marais et à tout ce qui peut donner finalement un peu de richesse à cette terre qu'il ne faut pas toujours confondre avec celle des grands châteaux viticoles.
Éric, tu disais en introduction à cette rencontre que 28 ans après, ou 27, je ne sais plus, il y avait eu des changements. Moi, je n'ai pas le sentiment que l'estuaire a beaucoup changé au niveau des paysages. J'ai même envie de dire, s'il a changé, c'est parce qu'il y a moins... je mets la centrale à part, c'est une activité industrielle qui sont... Certaines se sont effacées. D'autres ont été repoussés par les Médocains et par les gens de l'autre rive. Je pense à ce satané port méthanier. C'est un espace qui est devenu très protégé. Quand on parlait des poissons, c'est un espace que l'on a épuisé, que l'homme a épuisé, pas seulement d'ailleurs au niveau de la faune, mais aussi en allant extraire son granulat, sans penser un seul instant que quand touchant on a du granulat, on touche à du frais, etc. D'ailleurs, j'ai vu récemment qu'un tribunal administratif remettait en question le fait qu'on ne puisse plus, aller, je ne sais plus dans quelle zone, prendre de granulat. Il est classé Natura 2000. Il y a Nathalie Dobigeon du Conservatoire, où il y a des acquisitions foncières qui le préservent. Les marais aussi sont maintenant classés. Enfin, je ne dis pas que ce soit un monde idéal. Néanmoins, il y a des mesures qui ont été prises au niveau de l'estuaire et qui lui laissent, malgré tout, assez largement son caractère sauvage. Et c'est ça qui en fait sa force. J'ai presque envie de dire que c'est vraiment une forme d'espace de résistance aussi, parfois aux chimères du monde contemporain.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et justement, c'est ça qui a changé, je trouve. Parce que je pense qu'il y a 30 ans, donc quasiment 30 ans, les îles de l'estuaire étaient, je vais peut-être faire bondir certains, mais étaient quasiment toutes en déshérence ou dans des situations difficiles. La vie de la rivière, la vie des gens qui vivaient de la rivière, et je reparle de cette question des pêcheurs. Il faut savoir que il y a 30 ans, les principales espèces de l'estuaire, la lamproie, la lauze, étaient évidemment ce qui faisait le gagne-pain de centaines de familles. Aujourd'hui, depuis maintenant, je crois que c'est 5, 6, 7, 8 ans, même la lauze est interdite. La lamproie, il y a aussi eu des changements dans la manière de mentalité aussi des gens par rapport à la gastronomie. Et c'est vrai qu'on a plus aujourd'hui, par rapport à la lamproie, moi Moi, j'entends combien de personnes qui ont une espèce de réaction un peu dégoûtée face à cet animal effectivement étrange. Les villages, il y a 30 ans, je pense à Lamarque, qui était un village où se trouvait un véritable sur le port, où les pêcheurs venaient vendre, et il y avait une véritable vie sociale. Moi, j'ai le sentiment que 30 ans après, quelque chose de cet ordre-là s'est perdu, mais inversement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait ce que font aussi les parcs naturels, c'est de dire, et quand on y réfléchit, dans le fond, il y a quelque chose de terrible, de se dire que pour que nature vive, il faut la protéger. C'est un vrai sujet compliqué ce que le Conseil général départemental a fait à Bouchot et à l'île Nouvelle, je trouvais formidable. Ce qui est en train de se faire sur la grande île aussi, l'aménagement progressif d'un certain nombre de lieux, y compris de lieux de mémoire, tout ça, effectivement, me paraît être un vrai changement, de tout en conservant, comme tu le dis, cette... Et ce qui est difficile, évidemment, cette dimension, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, bien sûr, de cette dimension sauvage de l'estuaire. Mais je crois qu'il y a eu une appropriation de l'estuaire. Alors, c'est très grossier, ce que je vais dire, parce que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Mais je pense qu'il y a eu une appropriation de l'estuaire par Bordeaux. Et peut-être au détriment, je pense, de la situation catastrophique d'un certain nombre de communes du Médoc. Je pense à cette question des pêcheurs. Et que tout ça est évidemment à des avantages et des inconvénients. Moi, je trouve formidable qu'aujourd'hui, on puisse découvrir ces endroits complètement... magnifiques que sont les îles de l'estuaire, et pas simplement pour des questions esthétiques. C'est toute une histoire, c'est toute une vie, c'est j'allais employer de grands mots, mais il y a presque une civilisation des îles, la vie des Iloutes, de ceux qui ont vécu, qui y sont nés, qui s'y sont mariés, qui ont fait leur vie. Voilà, il y a quelque chose qui a changé au profit probablement d'une sauvegarde aussi de ce pays par rapport à toutes les fragilités que tu soulignes, et par rapport notamment aux questions de pollution que tu abordais. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Après, on ne peut pas réduire au seul estuaire les problèmes que rencontrent et la Haute-Gironde et le Médoc, que Marie connaît bien aussi, qui sont des problèmes extrêmement graves, hein, puisque ce sont des plus on remonte vers l'un ou l'autre, on a des difficultés sociales que l'on ne mesure pas, cachées peut-être que l'on est par le prisme des châteaux, qui génèrent d'ailleurs, par parenthèse, des formes de pauvreté à travers les saisonniers, qui aujourd'hui, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour rester dans ces paysages admirables. Je pense notamment aux marais, hein, je veux dire, qui sont aujourd'hui très protégés, mais même s'il y a encore du travail à faire, mais qui restent des paysages absolument sublimes sur cet estuaire, notamment sur la partie médocaine, ce qu'on disait tout à l'heure, des marais de l'Avergne, autrefois appelés d'ailleurs marais Saint-Simon, si je ne m'abuse. Voilà. Mais vous avez peut-être des questions, parce que je vois que le temps passe. Et oui.
Juste, pardon, par rapport à ce que tu parlais des saisonniers, Maïté Tchou, dans les diverses expositions qu'elle a faites l'année dernière, a travaillé justement sur cette question des saisonniers sur les îles de l'estuaire. Bon, en dehors de la, pardon de dire ça comme ça, de la qualité enfin, magnifique de ces images, il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que ça veut dire, et en termes d'exploitation, et en termes de rapport comme ça de gens qui débarquent dans un milieu qui, si on ne le connaît pas depuis longtemps, si on n'y a pas vécu, est un milieu hostile. Et tous les gens qui disent qu'on peut naviguer facilement sur l'estuaire, là, c'est des plaisantins, parce que bien évidemment, c'est pas vrai.
Voilà. Maintenant, vous allez faire. Vous prêtez, pour ceux qui le souhaitent, au rituel des signatures.